Hola.
Buongiorno a tutti.
Hello.
Bonjour.
Bonjour, vous écoutez Chez nous l'Europe sur RCF, l'émission qui partage les actualités des acteurs locaux engagés à échelle européenne. Je suis Victoire Delemeau, volontaire en service civique au Lab Lisieux Normandie, et je suis en présence de Stéphanie Yoncourtin, députée européenne et présidente de l'association Renaissance 14. Bonjour Stéphanie, comment vous allez ?
Bonjour Victoire, je vais bien et vous ?
Je vais vraiment bien. On commence tout de suite notre rendez-vous mensuel pour échanger sur les actus européennes. Ursula von der Leyen, la présidente du Parlement européen, avait annoncé le 15 septembre que 2022 serait l'année européenne de la jeunesse. Plus récemment, le Parlement a confirmé la décision d'organiser des activités et des initiatives centrées sur les jeunes dans tous les États membres cette année. Qu'est-ce que ce titre implique ? Quelles actions vont donc être mises en place pour les jeunes en Normandie ?
En effet, la jeunesse a été particulièrement touchée hein, par la crise du Covid-19 et toutes les conséquences socio-économiques que ça a entraînées. Et véritablement, les jeunes vont être au cœur de toutes les politiques européennes pour cette année 2022. C'est quand même le fruit d'une revendication que nous portons avec mes collègues eurodéputés Renaissance depuis des mois pour aider notre jeunesse à préparer son avenir et à saisir des opportunités offertes par l'Europe. Début décembre, il y a eu un accord de trilogue qui a été trouvé entre les trois institutions, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne pour lancer cette année. Il fallait bien sûr un budget et surtout une ambition, une impulsion. C'est l'idée de mettre les jeunes au cœur de toutes ces politiques. Alors, nous on souhaite que nos jeunes s'emparent du débat public, qui mènent des réflexions sur l'intégration des politiques jeunesse dans toutes les politiques et puis qui s'engagent, vraiment. Alors grâce à l'action de mes collègues eurodéputés, en particulier ma collègue Laurence Farran, on a obtenu une ligne budgétaire dédiée, 8 millions d'euros pour 2022 et en engagement pour des fonds additionnels en 2023 pour quelque part assurer l'héritage et se dire que s'il y a des actions qui doivent continuer, il ne faut pas les stopper. Et la Commission européenne, elle a quant à elle identifié des programmes et des initiatives de toutes les directions générales qui peuvent participer aux objectifs de cette année européenne de la jeunesse. Alors 2022 finalement sera en co-construction avec tous les acteurs de la société civile pour mettre en place des initiatives pour permettre aux jeunes d'avoir des opportunités, redonner du sens à toutes ces opportunités qui ont été perdues pendant la crise de la Covid, puis aussi mieux les impliquer dans le processus démocratique européen. Et d'ailleurs, on a initié avec ma collègue un document d'engagement pour notre groupe Renew qui s'appelle The Pledge et avec 100 députés, 101 députés qui s'engagent à mettre la jeunesse au cœur de tous nos travaux parlementaires sur des sujets concret, c'est-à-dire qu'à chaque fois, sur la formation, l'intégration au marché du travail, la santé mentale, l'écoute, l'accueil des jeunes au Parlement européen, il faudra toujours avoir cette idée d'engager et d'impliquer nos jeunes.
Peut-on imaginer un lien avec la présidence française de l'Union européenne qui a débuté ce mois-ci et qui sera effective pour 6 mois ?
Oui, lors de la présentation de la feuille de route de la présidence française de l'Union européenne le 9 décembre dernier, le président de la République a rappelé que la présidence française permettra de préparer l'Europe de demain en fixant les bases de changements profonds. Et parmi ça, il y a l'élargissement d'Erasmus. Et donc, je vous rappelle, pendant 6 mois, la France va assurer la présidence du Conseil de l'Union européenne qui réunit les ministres des États membres des 27. Et c'est les ministres français, finalement, qui vont présider les réunions des 27 ministres européens dans les 9 formations de ce conseil, y compris celui pour l'éducation, la jeunesse, la culture et le sport. Et c'est important parce qu'il y a toute une série d'initiatives qui vont être dédiées à la jeunesse européenne et qui ont été imaginées d'ores et déjà par le ministère de la Culture pour faire vivre l'Europe et réunir les jeunes européens autour de projets communs. Là encore, vraiment la jeunesse doit être au cœur de l'année 2022. Et moi j'appelle tous les jeunes normands à s'emparer de cette année européenne de la jeunesse autour de laquelle moi je pourrais, le Lab Lisieux notamment, organiser des choses concrètes sur nos territoires. C'est tous les jeunes qui doivent compter, et en particulier ceux qui sont dans des peut-être régions plus enclavées et qui se disent « ça, c'est pas pour moi ». Au contraire, ce sont eux qu'on vise, et notamment grâce à Erasmus+.
Vous en parlez justement d'Erasmus+. Emmanuel Macron a notamment annoncé la volonté de créer un service civique européen pour les jeunes de moins de 25 ans. Quelle différence en fait avec le corps européen de solidarité qui existe déjà ?
Alors il pourrait être envisagé que le corps européen de solidarité soit une base du futur service civique européen, parce qu'il y a un volontariat, il y a du volontariat dedans, et il y a aussi de l'humanitaire hors Union européenne. Alors, on ne sait pas encore quelle forme va prendre le service civique européen, si c'est via le corps européen de solidarité ou via les services civiques nationaux, quand il y a des services civiques. Toujours est-il que c'est vraiment un travail qui est en train de se co-construire également, et je vous en reparlerai, parce que véritablement, là encore, on est dans le donner envie aux jeunes de s'engager. Il y a toujours une dynamique chez nos jeunes et il faut les aider à porter cet engagement concrètement.
Autre projet pour contrer la première cause de décès chez les moins de 65 ans en Europe, à savoir le cancer, un plan européen travaille sur une nouvelle approche de la prévention, du traitement et des soins. Pouvez-vous nous en dire plus, où en est ce plan actuellement ?
Oui, alors au niveau européen, en 2020, on a remarqué que la maladie, le cancer, a été diagnostiqué chez 2,7 millions d'Européens et qu'elle a entraîné le décès de 1,3 million de personnes. Et c'est un plan qu'on porte vraiment très fort avec mes collègues eurodéputés et notamment notre collègue Véronique Trier-Lenoir, qui est oncologue, professeur d'oncologie. C'est une priorité essentielle dans la santé, c'est un élément clé pour vraiment faire en sorte qu'on ait une santé plus forte dans l'Union européenne. Début février, la Commission européenne a présenté ce plan européen pour vaincre le cancer. C'est vraiment une grande première, ça n'avait jamais été fait à l'heure actuelle et jusqu'à présent. Et début décembre, la Commission spéciale de lutte contre le cancer au Parlement européen a adopté ses recommandations pour le plan cancer qui vise, au-delà de la lutte contre la maladie, à surtout réduire les inégalités de santé. J'en parlais tout à l'heure pour les jeunes, c'est la même chose en fait. C'est vraiment une approche qui permet d'améliorer à la fois la prévention et les traitements et de combattre ces inégalités pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas la possibilité d'être à proximité de grands centres anticancéreux, ceux qui n'ont pas forcément les moyens qui sont loin, doivent être prioritaires et doivent bien évidemment être impliqués. C'est un plan qui appréhende l'ensemble de la prise en charge de la maladie, bien évidemment, et qui va jusqu'à aider les personnes qui ont survécu au cancer en se concentrant sur des mesures pour lesquelles l'Union peut apporter la plus grande valeur ajoutée. Et il sera étroitement lié à la mission de recherche sur le cancer dans le cadre du programme, vous savez, Horizon Europe, qui est une initiative novatrice qui vise à maximiser l'impact du soutien de l'Union européenne à la recherche et à l'innovation. Et donc, véritablement, ça permet de cibler des actions spécifiques, encore une fois, depuis la prévention du cancer jusqu'à l'intégration sociale qui nous semble fondamentale.
2022, c'est donc peut-être l'année du grand changement et il y a également l'idée de renforcer l'espace Schengen, donc notre espace de libre circulation qui compte aujourd'hui plus de 420 millions de personnes dans 26 pays. En quoi consiste concrètement ce projet de réforme ?
Alors aujourd'hui, il y a 3,5 millions d'Européens qui franchissent quotidiennement la frontière d'un pays membre. 3,5 millions. Malgré les diverses crises qu'on traverse, alors on a la crise migratoire, Covid, bientôt énormément la crise climatique, on doit préserver au maximum le principe de l'ouverture de nos frontières intérieures sans contrôle permanent. Et l'idée, c'est véritablement les deux jambes, solidarité et responsabilité. La Commission européenne, elle a présenté à la mi-décembre là un projet de réforme de l'espace Schengen. Et il s'agit de l'adapter à tous les nouveaux défis, notamment, vous savez, toutes les menaces hybrides à nos frontières, en ce moment, notamment la Biélorussie, il y a également la Turquie, le Maghreb, pour n'en citer que quelques-unes, avec davantage de coordination entre les États membres de l'Union européenne. C'est pas un vain mot, parce que jusqu'à présent, ce sont certains États qui étaient touchés par cette migration, notamment les États du Sud, ceux qu'on dit de première entrée, comme la Grèce ou l'Italie. Et on porte au Parlement européen, avec ma collègue eurodéputée Fabienne Keller, une proposition de révision du Code Schengen, qui est vraiment le texte principal qui réglemente l'espace de libre circulation Schengen, qui est basé sur plusieurs principes, notamment la mise en place de réunions ministérielles régulières, entre les ministres. Et encore une fois, il faut que chaque État membre se sente concerné, ce qui n'est pas toujours le cas. Certains sont beaucoup plus mis à contribution que d'autres. Ensuite, il faut qu'il y ait une maîtrise des frontières en cas de pression migratoire, avec notamment la mise en place d'un mécanisme de soutien solidaire en cas de crise, un mécanisme qu'on appelle de réponse commune. Et ça, c'est important pour éviter justement ce qui peut se passer en ce moment, notamment l'instrumentalisation des migrants. Il faut un mécanisme d'adaptation adaptation des règles de contrôle aux frontières intérieures, là encore en cas de crise sanitaire ou de menace sécuritaire. Je développerai pas davantage parce qu'il y a énormément de choses qui sont prévues, mais le projet de réforme de l'espace Schengen est lancé et c'est une demande du Parlement européen et de la France depuis longtemps. Alors j'espère que les discussions vont pouvoir aboutir sur un sujet extrêmement sensible mais qui est vraiment primordial et on le voit encore tous les jours.
Est-ce qu'il y a des risques sur cette réforme ?
Ouais, il y a des risques d'abord de désaccord, parce que c'est une réforme qui forcément est loin d'être consensuelle. Encore une fois, comme je l'ai dit, il y a en plus des difficultés pour certains pays qui sont vraiment les pays les premiers touchés, parce qu'ils sont directement à nos frontières extérieures, des risques d'instrumentalisation, et pas que des pays extérieurs, d'instrumentalisation politique, nationaliste, qui sont extrêmement dangereuses à l'approche également d'élections, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et ça, c'est un gros sujet, parce que regardez Angela Merkel, qui avait justement en 2015 accueilli des millions de migrants, ça avait aussi déclenché en Allemagne des réactions. Et il faut donc se raison garder, il faut, à mon avis, avoir une approche très pragmatique. Et encore une fois, c'est deux jambes, hein, solidarité, mais également responsabilité, pour faire en sorte que l'intégration se fasse le mieux possible.
L'autre enjeu de cette année, ce sera peut-être la création d'un salaire minimum équitable au sein de l'Union européenne. De quoi s'agit-il concrètement ? Est-ce que vous pouvez un peu nous l'expliquer ?
Oui, alors c'est déjà ça va déjà être à mon sens une très bonne nouvelle pour justement les entreprises qui en général travaillent avec d'autres la France et d'autres pays l'Union européenne et qui nous parlent toujours de problématiques de dumping social où elles s'en sortent pas parce que bien évidemment elles se trouvent confrontées à des salariés, à une main d'œuvre en face qui est beaucoup moins bien rémunérés et donc il y a une distorsion quelque part de concurrence. Donc c'est une proposition qui devrait permettre de garantir au sein de l'Union européenne des salaires minimaux pour permettre de vivre décemment, c'est-à-dire qu'il faut déjà que les employés de tous les pays, les salariés de tous les pays aient un salaire minimum qui soit la rémunération la plus basse que les employeurs leur versent aux employés. Et même si le montant du salaire minimum varie d'un pays européen à l'autre, il permet pas dans la majorité des cas de couvrir la totalité des frais de subsistance. Et il s'agit pas de définir un salaire minimum pour toute l'Europe, mais de lutter, encore une fois comme j'ai dit, contre le dumping social, mieux protéger les travailleurs européens et également les employés. Donc il y a deux formes de salaire minimum dans les pays de l'Union européenne, ce qu'on appelle les salaires minimums légaux qui sont réglementés par des statuts ou des lois formelles et la plupart des États membres disposent de telles règles. Et puis il y a aussi ceux qui sont convenus collectivement dans six pays de l'Union européenne, les salaires et dans certains cas les salaires minimaux sont déterminés par des conventions collective entre syndicats et employeurs. Donc le Parlement européen va adopter sa position de négociation fin novembre 2021 et c'est maintenant les 27 ministres du Travail qui ont adopté leur première position début décembre 2021. Donc on voit que là, tous les voyants pour l'instant sont au vert. La présidence française de l'Union européenne va être un moment de vérité pour les salaires minimums et la délégation Renaissance, en particulier ma collègue Sylvie Brunet, sera engagée pour trouver là-dessus un accord. Et l'idée est bien évidemment à la fois d'éradiquer la pauvreté au travail, de promouvoir la négociation collective et de permettre à nos entreprises de pouvoir librement prester et travailler dans l'Union européenne.
Si ce projet parvient à être mis en place, quelles actions le Parlement européen va-t-il mettre en place pour garantir ce salaire minimum ?
Bah écoutez, déjà, le Parlement européen a adopté sa position fin novembre, comme j'ai dit, 2021. Donc, le Parlement est co-législateur, donc il adopte sa position. Ensuite, la Commission européenne, quant à elle, a également fait une proposition. On va arriver dans ce qu'on appelle la période de trilogue. La période de trilogue, c'est les négociations sous présidence française entre le Parlement, la Commission européenne et le Conseil des ministres de l'Union européenne. Et donc, a priori, ça devrait être de bon augure pour avoir justement un salaire minimum équitable au sein de l'Union européenne.
Merci beaucoup Stéphanie Yon-Courtin pour toutes ces informations.
Merci beaucoup Victoire et bonne année 2022 à vous Victoire et à tous ceux qui nous écoutent et à tous leurs proches.
Bonne année à vous aussi, merci.
Merci.
Hallo. Hola.
Buongiorno a tutti.
Hello.
Bonjour.